Alleluia.
Gloire
à Dieu. Alléluia.
Gloire à Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord à cause de tout ce que le Seigneur fait pour nous. Ensuite, à cause de toute la communion que j'ai vue ici en partage ce dimanche. Il n'est pas toujours évident de dire avec les mots de bon sens, même pour les maîtres de la parole. Mais, au-delà des mots, il y a le vécu, il y a les sentiments qu'on a, il y a la réalité qu'on voit. La semaine dernière, nous avons parlé des dons spirituels. Et ce dimanche-là a ouvert beaucoup d'esprit. Il y a eu une telle joie sur ceci qu'on n'en avait jamais vu autant. Beaucoup d'entre vous ont réalisé qu'ils sont chacun à son niveau. Des pièces maîtresses dans ce ministère. Nous avons dit que nous allons continuer les enseignements. Tant qu'on vient avec ces emplois de travail là-dessus, je regardais pratiquement les enseignements sur 12 dimanches d'affilée, qui correspond à 3 mois. Et j'étais heureux de voir combien nous allons encore être nourris. Nous avons annoncé la semaine dernière que nous allions parler des ministères d'hommes de l'Église. Après l'étude, nous rendons que cet enseignement est large. On va le copier-coller. On va l'exécuter. Vous voulez que je dise après notre mot qu'il faut définir?
Oui, oh.
Compartimenté.
Encore.
C'est trop fort. Ok, on va couper un morceau.
Amen.
Oui, cet enseignement est tellement profond qu'on ne peut pas le faire d'un trait. Ce serait inconvenant et même indigeste. Il faut y aller pas à pas, justement, calmement. C'est la tâche du quoi? Donc aujourd'hui, on va seulement parler des apôtres. Et au fur et à mesure, on va évoluer. Cet enseignement est tellement technique, tellement profond que j'ai béni l'Éternel à cause de ce qu'il a appris à beaucoup ici. De venir avec les blocs noceaux et les cahiers. Regardez, déjà les armes sont sorties, les vitres sont là, les cahiers, etc. C'est quelque chose d'une beauté inestimable. Que les fidèles dans un ministère aient réalisé qu'il faut prendre des notes. Parce que la formation que vous êtes en train de recevoir ici, il sera techniquement difficile de la recevoir ailleurs. Il y a très peu d'hommes de Dieu qui peuvent offrir une telle qualité de formation. Il y a très peu d'endroits où l'Esprit Saint prend autant de contrôle de l'enseignement.
Vérité.
Applaudissons d'abord pour les. Donc, on va compartimenter cet enseignement. On va le saucissonner. On va aller chez l'ONU. Les uns et les autres continueront à se nourrir par cela. Je voulais dire une chose que j'ai failli oublier. Il y en a qui veulent m'entendre parler beaucoup. Il y a trop de retardataires. Je ne peux pas laisser le défi là. Quand vous venez après la prière, l'appel est fini. Je vais d'ailleurs raconter cette histoire. Le Seigneur a fait exprès un jour pour que dans un ministère, on voit un ange avec un bloc mot. Toutes les personnes qui entraient, ils nous aident. Arriva une certaine heure, il est parti. Dans toutes les autres qui entraient après, Dieu ne comptait pas s'ils étaient venus à l'église. Il faut venir avant 9h. Vous croyez que la prière d'avant 9h, à partir de 9h, c'est pour qui les oiseaux, tous les oiseaux. Il y a une prière ici qui commence dès 9h. Certains disent que l'envoyé arrive après. Il faut que je vienne après l'envoyé. Là, je suis sûr que je vais juste écouter l'enseignement. Le reste là, ça ne me concerne pas. D'autres sont un peu plus forts. Quand l'envoyé ne reçoit plus chaque semaine là, on est à point de venir juste. On le calcule seulement à la fin, mais on calcule les jours et les soirs. Ce sont de mauvais calculs. Vous avez déjà eu la deux plusieurs fois. C'est un. Pendant les prières, les louanges et les adorations, les guérisons s'opèrent. Vous avez déjà eu la deux que les guérisons s'opèrent pendant les enseignements. Pourquoi les gens et les autres continuent à faire les longs calculs? Il y a une heure à laquelle le culte commence, c'est 9h. Vous voyez là, avant 9h. Il y en a un qui sont ensemble, moi tout un compartiment là-bas. Dans le dimanche dernier, ils ont senti que nous, ça a pris, on a tout eu. Là, c'est bon. On peut d'abord le prix. Donc, disons tantôt que nous avons un enseignement aujourd'hui. La première partie d'un enseignement qui pourra prendre 3 ou 4 séances. C'est le ministère donc de l'Église. Quand on lit Éphésiens 4, verset 1, on a une liste de ministères. Ils sont appelés les ministères dont le Christ a donné à l'Église. Et quand on parle des ministères dont, c'est-à-dire des dirigeants spirituels qualifiés selon Jésus-Christ. La semaine dernière, on a parlé des dons spirituels. On nous a montré la différence entre les dons spirituels et les dons ministériels. On a parlé des manifestations de l'Esprit Saint. On a parlé des fruits de l'Esprit. On a fait les différences. Parce que quand on parle des fruits de l'Esprit, on se rend compte que quelqu'un est chrétien. Bien. Il y en a qui nous cherchent des problèmes. Par l'autorité de Jésus-Christ, je demande à l'Esprit Saint de saturer cet endroit de tout. Sol. Sous-sol. Air. Eau. Afin que tout esprit de distraction qui vient interférer dans cet enseignement soit anéanti. Disons d'abord Éphésiens 4, 11. Comme ça, les uns et les autres vont connaître l'enjeu. Éphésiens 4, verset 11.
Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les gens comme apôtres. Et il a donné les gens comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs.
Amen. D'abord, les apôtres, ensuite les prophètes, après les évangélistes, après les pasteurs, et plus loin, les docteurs ou enseignants. Quand on va regarder cet enseignement de façon approfondie, vous allez comprendre certaines choses. Mais aujourd'hui, on va s'apprécier sur les apôtres. On y arrive. L'apôtre Paul, Paul était un apôtre. Il a déclaré que le Christ a donné ses dons pour équiper le peuple de Dieu. En vue du service et pour l'édification spirituelle du corps de Christ, selon l'intention divine. On a déjà lu ces passages ici. Et on a parlé de ça. Et nous allons relire ça aujourd'hui pour que les uns et les autres comprennent le contexte spirituel, biblique, qui va avec les hommes ministériels. disons ensemble le deuxième cadre, ça ne nous pas gagner de 12 à 15. Ça permet de raser tout cet argumentaire.
Et c'est
bien cadre 12. Qu'il me soit permis de réclamer un micro pour ma fille à toi. Éphésiens 4, 12 jusqu'à 16.
Éphésiens 4, 12 jusqu'à 16. Il est écrit. Tout le Père est saint. Tout le Père est ce. Tout le Père est seulement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de surprise par la tromperie des hommes, par leur vie dans les moyens de séduction.
Alléluia. Nous pouvons donc, par rapport à cet argumentaire de l'apôtre Paul, établir que le but est l'éducation spirituelle du corps de Christ selon l'intention divine. Nous avons déjà expliqué ici, depuis les dons spirituels, que l'Esprit donne à qui il veut, comme il veut. Dans un esprit, plusieurs dons. En regardant par ordre de croissance, on va dire de grandeur décroissante, on commence par les apôtres. En dessous, vous avez les prophètes. En dessous, vous avez les évangélistes. En dessous, vous avez les pasteurs. En dessous, vous avez les docteurs, enseignants. En dessous même, on peut aller plus loin. Il y a les administrateurs. Et après, il y a les dettes. Voilà, c'est vraiment approfondi, on peut aller jusqu'à ce stade. Parlons donc des apôtres. On va se limiter à parler des apôtres aujourd'hui, avec tous les enjeux qui sont liés à cette position ministérielle au sein de l'Église. Vous devez bien savoir que le titre d'apôtre est donné à certains dirigeants. Dans le Nouveau Testament. C'est un terme qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Avant, on parle des prophètes, c'est à partir du Nouveau Testament qu'on parle des apôtres. Le terme de apostello lui-même signifie envoyer quelqu'un en mission spéciale. Dis au voisin que tu n'es pas le moment de dormir. Donc en fait, c'est très important de comprendre ça. Le verbe apostello signifie envoyer quelqu'un en mission spéciale. En tant que messager, c'est un représentant personnel de celui qui envoie. Vous comprenez ça? Comment on s'entend? Envoyer quelqu'un en mission spéciale, en tant que messager, et représentant personnel de celui qui envoie. Et quand on comprend l'esprit d'apôtre, apôtre, on comprend pourquoi, premièrement, ce titre a été employé pour désigner Christ, lui-même. Jésus-Christ, dans cet entendement, est un apôtre. C'est le premier des apôtres. Ce titre a été utilisé pour désigner les 12 autour de lui, les disciples les plus proches. Ce titre a été utilisé pour Paul, qui a rencontré Jésus en esprit qui ne fait pas à côté, et qui aussi est un apôtre. Pour que les uns et les autres aient des références bibliques qui permettent de se servir dans ce temps, prenez Hébreux 3, le verset 12. Hébreux 3, le verset 12. Pardon, le verset 1 à 2, ce n'est pas 12. Vous prenez aussi Romains 1, 1. Je parle pour ceux qui prennent les notes et puis on va lire après. Hébreux 3, de 1 à 2. Romains 1, verset 1. 2 Corinthiens 1, 1. Et Galates 1, 1. On peut d'abord commencer à la lecture d'Hébreux 3, verset 1 à 2.
Hébreux 3, verset 1 à 2. C'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez la porte et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison.
Amen. Ce passage permet de comprendre que Jésus-Christ est un apôtre qui est envoyé en mission spéciale par celui qui l'a envoyé, qui est le Dieu créateur. Dans cette intellection, dans cette compréhension, dans cette interprétation, Jésus-Christ est d'abord le premier apôtre. Et regardons maintenant Romains 1, 1, 2 Corinthiens 1, 1 et Galates 1, 1.
Romains 1, 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu.
Amen. Paul aussi, serviteur de Jésus-Christ, envoyé par Jésus-Christ, est un apôtre. Deux Corinthiens 1, 1 et Galates 1, 1.
Deux Corinthiens 1, 1.
Assurez être plus brave que beaucoup d'adultes. Applaudissez d'abord tout ça.
Deux Corinthiens 1, 1. Il est écrit. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et l'esprit de Dieu. Amen.
Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde une grâce spéciale pour ce mois de décembre.
Amen.
Qu'est-ce qui est écrit dans Galates 1, verset 1? Quand il faut arriver là-bas, je vous prie. C'est élégant, ma fille. C'est que l'on me donne quand il a dit ton costume.
Galates 1, 1. Paul, apôtre, nom de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus, et Dieu le Père.
Paul, reprends ta machine. Là, ça commence à être très titré. Paul,
apôtre,
oui.
Nom de la part des hommes,
oui.
Ni par un homme, mais par Jésus.
Ce n'est pas un homme qui se déclare apôtre. Parce que là, je voulais passer. Mais il y a des gens qui font un cauchemar autour de 3 heures du matin. Et quand ils se réveillent à 6 heures, ils sont apôtres. D'autres ont fait un rêve en couleur. Qui voyaient des choses. À 5h45, on dit qu'ils sont apôtres, c'est désormais.
Non déclaré.
Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es apôtre?
C'est Dieu.
Et ils sont nombreux là.
En 60.
Apôtre, là, ça va pas.
Pauvre menteur.
Qui t'en est?
Pauvre menteur.
Vous êtes pauvre menteur. Non mais, c'est un sujet d'inquiétude. Quand il y a tient une expression comme un évangéliste. Et ils ont un grand de mémoire. Il y a des gens qui prophétisent. Il y a d'autres qui prophétisent. Et d'autres qui profitent. Troisième catégorie. Donc il y a les complémentaires. Sortant d'un complément ou d'un rêve en couleur, il est tombé à cause de subitement tout.
Non.
Je dis que c'était dedans. Non. Le Père créateur éternel était dedans.
Non.
Le Christ est dedans.
Non.
Il y a à cause du soir.
Lui-même.
Non pas les hommes, mais par Jésus-Christ. Et par le Créateur. C'est nous qui avons écrit la Bible là.
Non.
Donc il est très important de comprendre cette affaire. Vous avez les gens à cause de prophètes ici, évangélistes, tout ça. Faites attention. Il ne faut pas que votre langue ne lise des cas comme ça. J'ai entendu une histoire récente dans ce ministère de quelqu'un qui a rencontré un grand prophète qui est le nouvel envoyé. Est-ce que ça finit par arriver toujours dans mes oreilles? J'ai oublié le nom là parce que le nom était trop compliqué. Mais il est le nouvel envoyé. Premier acte prophétique, brûler la Bible du concerné. Cet enseignement a pour but de vous rendre vigilant. Donc, je ne peux pas louper les choses comme ça. Et on va entrer en profondeur dans cette question.
Amen.
La semaine dernière, vous avez eu des éléments pratiques, toujours bibliques, qui devaient être vigilants. On va continuer dans ce sens. Est-ce que vous devez être des fondations fragiles?
Non.
Est-ce que vous devez être des fondations solides?
Oui.
Avec Jésus-Christ comme pierre.
Amen.
Donc dans la même foulée, d'autres personnes, en dehors de Paul, les douze, ont été appelées apôtres. Vous gardez ici les références, Romains 16, 7 et Galates 1, 19. Donc c'est une appellation qui a son sens grâce à Jésus-Christ et grâce au principe de celui qui est envoyé en mission spéciale en tant que messager représentant personnel de celui qui envoie. Et celui qui envoie est Dieu. Donc vous gardez comme référence Romains 16, 7, Galates 1, 19, à Ezra. Dans le Nouveau Testament, en terme, le terme apôtre est généralement utilisé pour désigner un représentant d'une église délégué par elle. Tel que les premiers missionnaires chrétiens. Bon, on peut donc aussi dire que dans le Nouveau Testament, le terme apôtre fait référence à tout messager mandataire et envoyé comme missionnaire ou chargé de toute autre responsabilité particulière. Quand on regarde véritablement le passé, quand on regarde la parole et quand il est écrit autour des apôtres, on se rend compte que les apôtres étaient des hommes qui avaient manifesté une capacité formidable de leadership. C'est une des caractéristiques que l'on peut lire. Ils étaient moins en puissance. J'ai oublié le nom de cet apôtre. Il avait un tel niveau d'onction que quand il entrait dans un bus, les démons tombaient de gauche à droite. Quand il entrait dans un train, il commettait l'erreur de vouloir partir d'un wagon à l'autre. C'était très grave. Il a dit que l'onction, pas qu'on dit qu'on est en point puissamment. Il faudrait que vous représentiez cela. Nous avons enseigné ici que les apôtres et les prophètes sont des réservoirs d'onction. C'est quoi l'onction? C'est la capacité à
manifester Dieu.
À revêtir Dieu. C'est-à-dire que Dieu te remplit après ta déborde. C'est pourquoi autour de toi physiquement, il y a des effets. Parce que l'onction s'étend. Il s'utilise puissamment. Mais imaginez que quelqu'un arrive à un tel niveau d'onction que quand il arrive dans un train, tous les démons fuient le train là vite. Donc il suffit seulement qu'il se balade d'un wagon à l'autre parce qu'il voulait aller saluer un collègue de l'autre côté. Une bonne partie du train entre en train. Il n'a pas prié, il passe seulement. Et ce genre de choses est visible facilement, c'est des personnes qui ont un très haut niveau d'onction. Il y a des niveaux d'onction. Il y a des niveaux de foi et il y a la gloire. On parlera de ça après. Donc, les apôtres étaient des gens qui ont manifesté une grande capacité de liberté. Ils étaient points en puissance. Points vraiment de puissance. Et de ce fait, c'est ce qui est très intéressant. Ils pouvaient apporter directement la puissance des ténèbres. On parlait du passé. Mais c'est visible dans le présent. J'ai vu un pasteur, mon cœur, je croyais que j'étais seul qui était à quelqu'un, mais celui-là, il est à quelqu'un et mon cœur. Il dit que vraiment, quel effet que les pasteurs étaient dehors qui les dépassent. Que quand tu tombes devant lui, que tu as une maladie ou un problème, il te dit que mon frère, il faut prier. Je vais pas te prêter en ce moment, le temps de Dieu va venir. Les hommes de Dieu qui n'ont pas d'onction. Et qui, face à la situation, ne sont pas capables d'engager la fonctionnement. Son frère spirituel, quelques semaines plus tôt, parlait et disait la même chose. Il dit, bon, j'ai reçu un Américain ici qui a des problèmes sérieux parce qu'il ne comprend pas que l'Esprit Saint est un esprit qui agit. Un monsieur entre dans le bureau et me dit que maintenant, ça parce que j'ai l'argent. Je ne sais pas de qui me foutre à partager l'argent. Et que l'Américain suit la paix. Il dit, l'argent que j'ai t'a donné, tu t'as dit, oui, c'est un problème de gestion. Et puis je t'en ai quelque chose pour toi. Il prie vraiment, Seigneur, apprends-lui la gestion de l'argent, apprends-lui à bien gérer l'argent. Parce que c'est des exemples qui montrent comment, et je vous ai déjà dit, il y a des gens qui ont l'esprit, hein. Mais ils n'ont pas d'onction qui leur permet de voir le Saint agir. Ils se limitent à la simple parole. Et ça pose un problème. Lorsque vous lisez acte 1, verset 1, vous voyez que Jésus-Christ enseignait et agissait. C'est les deux. Si vous êtes mis à limiter à l'enseignement et vous ne pouvez pas agir puissamment, vous avez une faiblesse dans la capacité à convertir les gens. Comme ce pasteur me disait, n'est-ce pas que c'est plus facile de convertir quelqu'un quand tu as enlevé une maladie que le médecin ne veut pas chercher, que de lui parler seulement le français. Ce monsieur-là, il dit, laissez que je prie pour vous. Quand il finit, la personne qui est à côté voit que la personne est protégée. Il dit, qui est-ce? Je peux voir pour cette question, il déclenche la réaction du démon dedans. Qui est-ce? Pourquoi tu as pris cette main? Le gens le regardent à il a protégé. Et il a une éducation qui lui fait que même lire les protections au plus, plus simple parce qu'il ne peut pas voir. Donc il intellectualise tout. Or les apôtres, à cause du niveau d'onction, sont capables d'engager l'apprentissement. Puisque de toute façon, ils sont loin pour la domination. Et cette domination s'exerce à travers ce qu'on appelle les options de domination. C'est un pouvoir que Dieu dépose en toi. Et que les chrétiens utilisent puissamment à travers toi, parce qu'ils sont des instruments. Si vous n'avez pas un certain niveau d'option, vous pouvez engager l'enfantement. D'ailleurs, si vous avez la chance, je ne sais pas par quel processus, que les gars se déclenchent en face et vous disent qu'ils sont 1200 dans le corps de quelqu'un. Mais la pause ne parle le niveau d'onction, n'a aucun problème à affronter directement les puissances de Dieu. Il est prêt à continuer l'évangile. L'évangile de Dieu n'est pas seulement un évangile parlé, c'est un évangile vivant, c'est un évangile de puissance. Jésus qui a fait des manifestations de puissance, donc elles sont normales. Nous avons donné un enseignement ici sur la relation entre Jésus-Christ et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint utilisait puissamment Jésus-Christ pour les manifestations de puissance. Guérison, délivrance, miracle. Jésus-Christ, le premier apôtre, était dans la première preuve de cette manifestation de puissance. Et de cette capacité à affronter les démons. Il arrive quelque part, il dit qu'ils sont légions. Les gens tellement nombreux qu'ils ne peuvent pas compter. Il est OK. Bon, il y en a qui ont besoin de faire le sport. Donc, il est très important de comprendre ça. La force à cause du niveau d'ancien peut affronter directement les titans, les ténèbres et continuer l'évangile à l'aide de miracles. Il faut un évangile qui est accompagné de miracles, de guérisons et de délivrances. C'est très important. Et les apôtres avaient quelque chose de particulier. Ils se consacraient à fonder des églises selon la vérité plus apostolique. Parce qu'il y a très des différences qu'il faudrait établir. On va y aller graduellement, on va donner quelques exemples. L'apôtre a attaché à l'enseignement fondamental de Christ. Et c'est cet enseignement fondamental sur lequel il s'appuie pour fonder l'église. Parce qu'il a un instrument, parce qu'en réalité, il n'est pas seul. Et il faut prendre conscience du fait qu'il y a une réalité apostolique, qu'il y a une pureté apostolique dans la démarche de l'apôtre. Ce n'est pas les intentions qu'il utilise. Ce n'est pas ta vision qu'il propose. Ce n'est pas ton propre regard intelligent qu'il établit. Non. C'est le regard que le Christ a déposé en lui, que le Père éternel a déposé en lui, la vision qu'il a reçue, qui est l'élément central de son orientation. Et c'était des ministres itinérants, c'est-à-dire quoi? De grands voyageurs. Jusqu'à présent, vous en avez. Vous avez des apôtres qui sont de grands voyageurs, qui font ce travail-là, de fonder les églises. Il y en a. Et cet itinérant n'allait pas sans risque. Ils ont pris beaucoup de risques pour le nom de Jésus-Christ. Ce sont des faits que l'on peut voir dans la Bible. Pour le nom de Jésus-Christ, dans le sens de l'avancement de l'évangile. Si l'évangile n'est pas proposé, il n'y a pas de vie. Si l'évangile n'est pas proposé, il n'y a pas de lumière. Si l'évangile n'est pas propagé, Jésus-Christ n'agit pas. Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Pour regarder les éléments qui aident à voir les risques, parce que je ne veux pas revenir là-dessus, j'allais juste voir ça, les risques pris par les apôtres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour l'avancement de l'évangile. Vous avez acte 11, verset 21 à 26, vous allez voir des exemples. Donc, les risques. Acte 11, 21 à 26. Acte 13, 50, verset 50. Acte 14, j'ai dit acte 11, 21 à 26, acte 13, verset 50, acte 14, verset 19 à 22, et acte 15, verset 22 à 26. Acte 11, 21 à 26, acte 13, 50, acte 14, 19 à 22, Acte 15, 22 à 26. Oui.
Acte 11, verset 21 à 26. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parlant aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous avec tout un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein de puissance et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ainsi à Tarse pour chasser Saul. Et, l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant quelques années, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche, au fond de la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
Ça, c'est la base. Et après, quand vous regardez les actes, actes 13, 50, actes 14, 19 à 22, actes 15, 22 à 26, vous voyez tous les dangers auxquels ces apôtres ont été exposés. Au fond, il a fallu fuir, aller se réfugier. On ne va pas rester remis tout ça. Dès le moment où ils ont commencé à faire leur travail, ils se sont exposés pour l'évangile, pour Jésus-Christ, pour l'avancement de l'évangile, pour ramener les brebis perdues au Père. Et ça, c'est les caractéristiques des apôtres, c'est qu'ils étaient des hommes de foi et des hommes de prière remplis du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire cette histoire de remplis du Saint-Esprit. Quand les gens, dès qu'ils ont reçu l'Esprit, ça nous dit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est très dangereux de raisonner comme ça. Quand on parle de rempli, c'est du plein. Donc quand tu as reçu l'Esprit, c'est une petite bouteille arrivée là. La petite quantité qui te permet de sortir des ténèbres, tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit. Non seulement c'est dû à une profonde ignorance de la marche spirituelle avec Jésus-Christ qui est une échelle infinie, mais c'est aussi dû au fait que beaucoup de personnes n'aient pas reçu un enseignement qui leur permet de comprendre qu'ils ont une partition à jouer. Et que dès le moment où ils ont reçu l'appel, ils ont identifié l'appel, ils ont accepté l'appel, et qu'ils ont la grâce de ne pas être parmi les appels manqués. Les gens, Dieu appelle, manquer. Ils ne sont jamais là où Dieu les attend. Il y a maintenant tout un processus dans lequel vous devez apprendre vos leçons. Dans la prière, le jeûne, la persévérance, la patience, l'obéissance, la foi, l'amour, la connaissance de la parole. Il y a beaucoup de gens ici. Lorsqu'on voulait travailler avec eux, il y a un certain nombre de problèmes, commençant ne serait-ce que par leur délivrance, vous êtes bloqué par un problème dans leur délivrance, et qu'ils sont vides. Si c'est la délivrance, la personne ne fait pas l'effort de connaître la parole. Elle est vide. Et tant qu'elle ne se remplit pas de la parole, il y a des traces, la porte reste ouverte. Les démons peuvent venir jouer au vide sur toi. Il y en a qui m'accablent à elle les appels, et les messages. On a envoyé, il faut partir fort. Il faut partir en mort. C'est la femme. C'est comme ça que quelqu'un se présente au milieu de sa terre, quelqu'un que je suis. La femme que tu connais à envoyer à Yahoué. Qui est souvent victime de coups de nuit. Elle présentation. Je commence à poser des questions élémentaires. Tu lis la Bible. On a envoyé Sarah. Quand on fait la délivrance, tu lis pas la Bible. On a un des ouvrages qu'on a sorti pour un suivi individuel. Tu en as un. Envoyé, ça c'était l'inquiétude. Quelle réponse? Donc le problème est derrière l'inquiétude. C'est quand il y a la fondation que tu commences, donc vous là, quand vous voulez construire, mais vous commencez d'avoir accepté les tôles. Vous n'avez pas encore tablé le terrain. Quand vous commencez à construire la maison, oui, envoyé, c'est les tôles. Mais comment allez-vous? Prends le début. Suis le programme de prière. Assainis-toi dedans. Commence à faire remplir de la parole et tu commences maintenant à faire les choses. Fondation, élévation de vie, etc. Il y a une cohérence dans la marche avec Dieu. Et quand vous comprenez qu'il y a cette cohérence, vous ne pouvez pas dire en introduction. Je suis rempli de l'Esprit Saint. Vous commencez à faire étudier tout le monde à la maison. Quel est que c'est l'Esprit Saint qui te parle? Pourquoi? On a étudié ça ici la semaine dernière. Lorsque vous avez des dons, vous devenez une cible prioritaire. Des dons allumés, vous devenez une cible prioritaire pour les gens. C'est quoi? Qui va travailler contre moi alors qu'avant de demander à lui, mais on investit sur ton cas. Avec les attaques se multiplient sur ton cas, j'avais une demande que c'est sûr que c'est Dieu. Et si tu ne peux pas au moins, tu n'as pas encore de stabilité, même pas un quart de dixième de plénitude, dis que tu es rempli de l'Esprit Saint. Vous savez le chemin par lequel Dieu passe pour fabriquer un apôtre jusqu'à le remplir dans le ciel. C'est très long, c'est très complexe. Vous avez quoi un peu de modestie et de réalisme par rapport à cela quand on parle d'être rempli de l'Esprit Saint. Regardons un peu les passages qui en parlent. Acte 11, verset 23 à 25, et acte 13, verset 2 à 5. On vous a dit que ici, là, de lait, petit lait, c'est fini. J'ai commencé à mordre dans les beignets, le pain, enfin, le macabre, le plantain, même le cardon. Oui. 4 semaines, il faut qu'on évolue. Est-ce que quelqu'un est disposé pour cela? Acte 11, verset 23 à 25.
Acte 11, le verset 23 à 25. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exauta tout d'un reste d'un cœur fermé, attaché au Seigneur. Car il était un homme de bien d'esprit saint et de foi, et d'une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Amen.
Amen. On parle de personnes remplies de l'Esprit Saint qui sont des apôtres, qui ont des réservoirs d'onction. Je rends le plus élevé dans la catégorie des hommes de Dieu, dans ce que l'Église est, celle qui est établie par Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui est rempli de l'Esprit Saint. Il y a une catégorisation qu'il faut respecter. Le temps que l'on attribue au terme apôtre demeure essentiellement au plan de Dieu pour l'Église. Est-ce qu'il faut bien comprendre le contexte? On ne parle pas d'apôtre hors de l'Église. C'est pour l'Église. Si l'Église cesse d'envoyer des individus remplis du Saint-Esprit, l'Évangile ne pourra pas se répandre dans le monde. L'Évangile ne pourra pas se répandre de par le monde. Donc c'est fondamental d'avoir des personnes remplies du Saint-Esprit capables de propager l'Évangile. En outre, tant que l'Église produit et envoie des ouvriers, elle remplira son mandat missionnaire. Et elle restera fidèle à la grande mission du Seigneur. Il faut dire, quand on est ensemble, que les uns et les autres gardent à l'esprit quelle est la grande mission du Seigneur. Nous l'avons dit ici que Satan a besoin d'un travail d'évangélisation. Et que le premier travail de la semence est la semence de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Oui.
Parce qu'il y en a, ils pensent qu'ils vont semer seulement quand ils vont donner
l'argent.
Le premier travail de semence, c'était la semence de la parole. Quelle est la grande mission du Seigneur Jésus-Christ? Prenons Matthieu 23, 28, le verset 10 à 20. La grande mission est précisée à ce niveau. C'est une mission que nous avons tout en partage, selon les niveaux de responsabilité. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Oui, nous écoutons.
Matthieu 20, verset 18 à 20 est écrit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Allez, et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la grande mission.
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
C'est-à-dire qu'il faut connaître cet évangile. Il faut faire corps avec cet évangile. Il faut épouser cet évangile. Il faut faire un avec cet évangile et le propager. Le diffuser.
Et voici.
Et une promesse est adjointe à cela. C'est une promesse garantie. Il est avec nous jusqu'à la fin
du monde.
C'est-à-dire qu'on ne travaille pas seul. Et là, pour bien mettre l'état des choses dans leur contexte, c'est-à-dire nous sommes des instruments vivants du Dieu vivant.
Amen.
Maintenant, des problèmes que nous avons, dans le service à Dieu, c'est qu'il arrive parfois que les gens croient qu'ils font les choses par eux-mêmes. Avant, hein? Un démon va te juger la mort. Non, mais oublie. Si tu oublies que c'est Dieu qui t'utilise, tu dis que je suis en train de parler au sujet. Un démon va te juger. La loi va rester rouge pendant 3 jours au moins. Donc il faut prendre conscience de tous ces aspects-là. Apprendre l'évangile. Être fort avec l'évangile. Et le propager en tant qu'instrument d'enseignement du Dieu créateur. Vous connaissez, le problème premier de l'homme, c'est l'ignorance. Tu connaîtras la vérité, et la vérité
t'affranchira.
Mon seul se périsse de connaître. Chacun d'entre nous doit prendre conscience de cet enjeu, de cette grande mission. Ce n'est pas seulement la mission des apôtres, c'est la mission de tous ceux qui ont la grâce de recevoir le message de Jésus-Christ.
Amen.
Amen. Dieu voisin, voisin, c'est aussi ma mission. Il n'a pas bien entendu. Voilà. Oui, les féministes voisines. Vous savez comment elle fait les féministes, et c'est toujours honnête autour. Si la voisine fait, si on dit voisine, n'est-ce pas? Peut-être qu'on peut encore utiliser dans un sens précis pour désigner ceux qui ont vu Jésus après la résurrection. Après sa résurrection, on a besoin de montrer des séquences. Pour qu'on comprenne l'étendue de la façon dont ce terme a été utilisé dans le Nouveau Testament. Il y en a qui ont rencontré Jésus après sa résurrection. Et qui ont personnellement reçu le mandat d'aller prêcher l'évangile. C'est très important de savoir ça. Après la résurrection, Jésus n'est pas continué à donner des consignes. Il rencontrait les gens, il posait. La parole dit qu'on l'a vu plusieurs fois. Il a posé avec des gens. Il a posé avec un célèbre. Quel est le même Thomas ici? Il a demandé à Thomas de mettre le doigt. Quand tu as dit que je ne suis pas ressuscité, ce n'est pas possible. Viens toucher. Touche, mets le doigt. Donc, il y a plusieurs catégories d'apôtres. Jésus lui-même était un apôtre. Les 12 qu'il a formés, transformés et élevés sont des apôtres. Paul, qu'il a eu après, qu'il a sorti de la captivité à faire, qu'il a réorienté vers sa mission, c'est un apôtre. Certains qu'il a rencontré. Donc vous avez les jours, vous avez Paul. Il y a quelque chose de très intéressant à comprendre, toujours au niveau de la pratique. Les apôtres possédaient une autorité unique dans les villes. Et cette autorité associait révélation divine et message original de l'évangile. Ce n'était pas juste une autorité en termes de puissance dans la manifestation des chrétiens. Il y a l'authenticité du message. Il y a derrière. Il y avait un message original de l'évangile. Il y a derrière. Que dit Ephésiens 2:2, on peut lire ça en passant. Ephésiens 2, verset 20, précisément. Ephésiens 2, 20.
Ephésiens 2, au verset 20, il est écrit. Vous avez été éduqués sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant le premier angle, la pierre angulaire.
Amen. Donc il est important de comprendre cela et de voir en fait le niveau de responsabilité qui va être le niveau de puissance, de manifestation divine. Ce qui signifie que la tâche d'apôtre est unique. Oui, je sais qu'il y a des heures de prière, mais on vous a dit déjà, je ne sais pas quand vous êtes ici. Quelque chose qui vient d'ajouter pour que les uns et les autres comprennent ça. La tâche d'apôtre est unique et elle n'est pas transmissible. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais, Je n'ai pas resté à apôtre. Je dis que quand je suis apôtre, je transmets les hommes d'apôtre à mon fils. On est en train d'entendre là. Oui. Il n'y a pas d'héritage d'apôtre qu'un homme va transmettre. Ni dans ma qualité d'apôtre, oui, mon fils. Je transmets le don d'apôtre et je serai apôtre après. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez, mais il faut qu'on s'entende et que les uns et les autres comprennent quelle est logique selon Dieu, pas selon les hommes. Donc, quand on regarde bien dans le Nouveau Testament, l'une des premières tâches de l'apôtre dans le Nouveau Testament, c'est d'établir les églises et s'assurer que leur enseignement repose sur une dévotion sincère. Oui, repose sur une dévotion sincère, néo-testamentaire. Permettez que je simplifie. Vous savez, oui, je suis sûr que tu allais protester. Avec, là, je crois que tu as invité, avant que ta phrase sorte, elle a demandé à Jésus. En fait, quand on dit néo, c'est nouveau. Testamentaire, nouveau testament. Donc, on doit s'assurer que ce qu'on dit va en harmonie avec les enseignements que Jésus-Christ a offert dans le nouveau testament. Regardons trois passages qui vont nous aider à comprendre cet esprit. Jean 21, le verset 15 à 17. Jean 21, le verset 15 à 17. Je parle d'abord de ceux qui sont en train de prendre des notes. Soyez abondamment bénis, vous tous qui avez compris ici, pour prendre des notes.
Amen.
Qui ne dit pas amen?
Amen.
Amen.
C'est un amen de rattrapage. Donc, Jean 21, de 15 à 17, 1 Corinthiens 12, verset 28, et 2 Corinthiens 11, verset 2 à 3. Jean 21, 15 à 17, 1 Corinthiens 12, 28, 2 Corinthiens 11, 2 à 3.
Jean 21, verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu
plus que... Attends, mon fils. Concentrez-vous. Restez ici. Les entrées créées d'interférence dans ma tête, je vous entends. Vous bavardez tant mentalement que verbalement. Cessez de bavarder et... Écoutez, ouvrez vos cœurs, recevez le message.
Amen.
Ciao, Tom.
On va doucement. Ok. Je croyais qu'on allait doucement. C'est encore Nayo. Recommande.
Jean,
et de rouiller les. C'est l'esprit de distraction. C'est ça dont j'ai parlé tout à l'heure.
Tape le papa.
À un moment où ta délivrance a Dieu pu réussir à laisser le téléphone sonner. Quelle histoire! Nous vous avons démontré ici que la première délivrance est dans la connaissance de la parole. D'un téléphone chinois. Alors on a tout ça, plus le bouton s'en donne. Il y a quelqu'un qui m'a montré une scène surprise. Un monsieur, c'est un canard. On est comme le tout là. Le gars là, il est nerveux au téléphone. Tellement il est nerveux au téléphone, il a tapé le téléphone, on le voyait dans le caillou, il a pensé à taper le téléphone. Il a déjà pas su mettre un seul truc qui est fini.
Il y a le patron là-bas.
Mais regardez, je vous dis, restez concentré, quelqu'un.
Oh, vraiment, c'est une
habitude. Dis-nous le passage, c'est quelque chose d'important, parce que c'est ça, justement. Je veux que tu aies rendu compte qu'il y a un acquis risque de ne pas écouter le message. Oui.
Jean 21, il a pris 15 ans. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, m'aimes-tu plus que tu m'aimes? Puisque le même Jésus
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ce fils? Il lui répondit, dis le Seigneur, tu sais ce que je fais. Jésus lui dit, paie les amis. Et il lui dit, fils de mon frère, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais ce que je fais. Jésus lui dit, paie les amis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais ce que je fais. Jésus lui dit, aime-tu?
Il y a une symbolique très importante dans ce passage. On peut la lire à plusieurs niveaux. On va se limiter à un ou deux niveaux d'analyse et d'exploitation de ce passage. Je dis qu'il demande trois fois de suite à Pierre, m'aimes-tu? Et c'est une des conditions fondamentales dans la marche avec Dieu. Tu ne peux pas être apôtre, tu ne peux pas être un instrument du Dieu créateur si tu ne l'aimes pas de tout ton cœur, de tout ton être, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Si tu n'aimes pas Dieu, tu dis que tu vas être envoyé où? Comment? Par qui?
Chez l'autre.
Au nom de qui? Et en quoi tu seras efficace? En réalité, c'est un engagement total que Dieu demande aux apôtres. C'est-à-dire lui appartenir totalement. Cela ne légitime pas, n'est-ce pas, que ceux qui ne sont pas apôtres soient dans des logiques d'appartenance partielle. Parce que si vous êtes dans les logiques d'appartenance partielle, vous avez échoué l'examen. Il n'est pas dit d'appartenir à l'Église de Dieu. Catholique, protestante, etc. On s'en fout. Est-ce que tu as un attachement personnel, consistant, total, à Christ? Certains d'entre vous ne savent pas. Ils disent souvent qu'ils sont des personnes jalouses. Si vous savez, Dieu est jaloux pour que vous tous réunissiez. Quand il demande, m'aimes-tu une fois, m'aimes-tu deux fois, m'aimes-tu trois fois, il demande trois parties de ton être qui sont attachées à lui. Est-ce que ton esprit est attaché à moi? Est-ce que ton âme est attachée à moi? Est-ce que ton corps est attaché à moi? Il y a des gens qui parfois m'étonnent. Je reçois tout type de messages dans la semaine. Quelqu'un me dit, quand vous voulez quelqu'un, il est bien possédé jusqu'aux ongles. Et tout un cas utilisé justement, il est délivré. Il t'envoie un message sur WhatsApp. Parce que c'est leur métier, couloir de communication préféré. Envoyé. Vraiment, je me suis un peu fatigué à la prière ces derniers temps, hein. Je vais voir comment recommencer en fin janvier. Tu vas recommencer.
En fin janvier.
Tu vas faire ma fin janvier. Je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore bien fait. Et puis après, là, je n'ai mis là, me dérange trop. Sinon, le sommet est suffisant. C'est pourquoi je pense qu'à partir de fin janvier, je pourrais...
Ah, c'est même pas que je
vais trouver. Est-ce que tu aimes Dieu au point de réaliser qu'il te faut investir tout ton être, tout ce prioritairement, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tu as un amour avec ce que Dieu a fait.
Amen.
Les apôtres ont cette responsabilité d'être l'exemple d'amour parfait que l'on crée. Elle écrit de tout leur esprit, de toute leur âme, de tout leur cœur, de tout leur corps, et être totalement engagé dans le service.
Mais qu'ils ont cette responsabilité d'être des saints, c'est-à-dire que tout le monde doit suivre ce modèle. Tout le monde doit suivre ce principe. Tout le monde doit suivre cette méthodologie. Et être ainsi récompensé pour avoir compris qu'il faut être entier en Christ. Et c'est ainsi que l'Église va être édifiée. C'est ainsi que le corps sera perfectionné. Le corps de Christ. Parce que les apôtres ne font partie que de la tête. Chaque partie du corps doit jouer sa partition. Et chacun d'entre nous a sa partition, sa responsabilité. Et nous avons dit ici, le dimanche dernier, au moment où nous sommes en train de discuter là-dessus, que personne ne peut prendre la place de personne dans l'Église. Personne ne peut prendre la place de
personne.
Un apôtre ne prendra pas la place du prophète, le prophète ne prendra pas la place de l'évangéliste, l'évangéliste ne prendra pas la place du pasteur, le pasteur ne prendra pas la place des docteurs et enseignants. Et dit vers ça. C'est vrai pour les dons ministériels, c'est vrai pour les dons spirituels. Donc, c'est vraiment important. Ok. Dans la logique de ce que nous sommes en train de dire, parce que certains vont me dire, avant de me dire, ils sont déjà en train de penser dans leur cœur. Que si tu peux pouvoir le faire, prioritairement, entièrement, totalement, tous les membres que tu es en train de sortir, là, c'est pour nous. C'est toi qui as appris ce qu'on va le faire, nous, ça nous concerne. Il y a des choses que nous disons, dont certains ne voient pas les enjeux. Mais pourtant, les enjeux sont clairs. Que dit 1 Corinthiens 12, verset 28? Et que dit 2 Corinthiens 11, verset 2 à 3? Nous sommes en train d'aller vers la fin, mais il est important que certains piliers soient édités ensemble. Et je demande aux huissiers de faire le tour. On a commencé à avoir des manifestations. Je veux pas les gens qui tombent. Qui tombe sur les huissiers?
Dans l'église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il a le don des miracles. Puis, les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 11, verset 2 à 3? Est-ce qu'un micro peut arriver là-bas?
Car je suis jaloux de vous. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai demandé un seul esprit. Pour vous présenter à tous comme une pierre. Toutefois, de même que le serpent de Dieu est bâtardé, je crains que vos pensées ne se trouvent.
Amen. C'est très important de comprendre cet esprit. Jésus-Christ est l'époux dans l'Église. Et l'Église est l'épouse. Nous sommes l'épouse. Vous connaissez un homme qui va partager sa femme?
Non.
Vous dites, est-ce que vous connaissez un homme qui va partager sa femme?
Non.
Pourquoi vous voulez que Christ vous partage avec le diable? Il y a quelqu'un qui vous en a. C'est cet esprit qu'il faut comprendre. C'est pourquoi il faut être entier à Christ. Ce n'est pas une affaire à partager. Que tu as un pied dedans, un pied dehors. Quand les deux pieds dedans, ou bien tu te fais brouter dehors. Et bien même. Et là, l'ennemi joue au ballon avec toi. Vous voyez ce qu'on fait du ballon sur un terrain. Qui résiste? Dis au voisin que le voisin, c'était ma vie d'avant. Mais en Christ, là, c'est fini comme ça. Et ça fait des églises impliquent donc deux charges principales. Quand on va aller vers la fin. Un dédié à ça. On va dire urgent. De ceci, et suscité par Dieu. De maintenir la pureté de l'Église. Et sa séparation des péchés du monde. Vous croyez que j'avais quitté l'endroit là? On peut pas encore quitter l'endroit là. Parce que quoi? La parole est claire à plusieurs niveaux. Si vous refusez d'être entier en Christ, d'investir en Christ, de vous donner à Christ, vous n'êtes pas béni. Dieu lui-même n'est pas béni. Que béni Dieu et béni par moi, c'est trop compliqué. Vous devez être entier en Christ, comme Christ lui-même est entier en nous. Ça veut dire que vous devez lutter, et vraiment lutter contre le péché, lutter contre toute forme de tentation, lutter contre toute forme d'égarement. C'est une vraie lutte, une véritable guerre. Tout ça qu'on doit prendre à bras le corps. Ce n'est pas comme certains sont les chrétiens du dimanche. Les chrétiens du dimanche sont trop forts. Ils ont quelques heures de pseudo-sainteté, au mieux. Si ce n'est aucun moment de sainteté. Ils ont des rituels disant, « Ah, demain sera dimanche, hein. Faut que j'aille me confesser. » Dimanche, il arrive en retard, première caractéristique. Deuxième, que pendant le culte, il n'a reçu aucun enseignement. Troisième, que pendant le culte, il est déjà ailleurs. Ta confession a servi à quoi? Je ne sais pas. Ça sert à quoi qu'il soit présent là alors qu'en esprit ailleurs? Je ne sais pas. Quand le culte finit, il est déjà au premier bar, juste après. Ça, c'est pour ceux qui tiennent à la boisson. Il y en a même qui se donne rendez-vous au lieu de culte. Ça, c'est très fort. C'est le lieu de rendez-vous pour la fornication. On se voit à l'église, c'est le lieu où on va se rencontrer, et après on va dédier pour la vie. À quel moment vous avez de la place pour Dieu? À quel moment vous pensez à Dieu? Nous l'avons dit ici plusieurs fois, parce qu'il ne faut pas juste lire la parole, il faut que les uns et les autres se rendent compte de ce que ça veut dire. C'est une évaluation quotidienne, permanente de votre vie qu'il vous faut faire. C'est-à-dire que quoi? Vous devez être en train de vous poser toujours la question. Je dis toujours, est-ce que ce que je suis en train de faire actuellement est en harmonie avec ce que le Christ attend de moi? Maintenant, on va lire les passages maintenant qui parlent de cela. Mais est-ce que vous, en termes d'appropriation, vous comprenez les jeux, que dit les enjeux autour de cette façon de faire et la pratique qui va avec? On va lire les passages. Et il faudrait que l'on soit assis sur certaines choses. Et sur les convictions personnelles. Parce qu'il y en a ici, ils nous font parler pour rien. Après, ils nous dérangent avec les... J'ai des trucs de nuit. Je mange encore, vous voyez. On me poursuit toujours. Parlez sur le levier là-bas. C'est ta part. On va t'enlever sans toi. Le Seigneur me demande de vous dire ceci. La confession sans fondement est caduque. Oui, ceux qui veulent l'explication, ça ne sert à rien. Si tu te confesses, tu n'es pas sincère, tu n'as pas d'engagement à tourner le dos définitivement, radicalement au péché. Tu te confesses, non, tu peux confesser. Après, tu dis pas, oh, j'ai un projet de retomber la semaine prochaine. Et il y a une autre chose là-dedans, qui est très important. Dieu ne se trompe pas. Et on ne trompe pas Dieu.
Vérité.
Il ne faut pas venir faire les ongleries. On ne jongle pas. Nous avons dit ici que Satan soit ton propre gendarme. Que Satan soit vigilant. Que Satan se préoccupe de lui à lui. De savoir, est-ce que je fais ce que le Père éternel attend de moi? Est-ce que je fais ce que Jésus-Christ attend de moi? Lui qui est le seul interlocuteur entre Dieu et les hommes. La parole dit d'ailleurs de résister au péché jusqu'au sang. Tant que tu n'as pas résisté jusqu'au sang, tu n'as pas encore compris que l'affaire là, c'est la guerre totale. Ce n'est pas une guerre partielle. Parce que maintenant que je veux dire ça, tout ça me montre, mais explique-leur. On va lire les passages. Bon, ce sera bien. Ce sera tout beau. Bien dit comme ça. Cependant, quel niveau d'appropriation les uns et les autres ont de cela? Nous avons un projet. On veut que le ministère grandisse. Pour que le ministère grandisse, les gens doivent être remplis de l'évangile. Les uns et les autres doivent s'approprier de la parole. Et tout sera. Oui, quand ils ont fini de s'approprier de la parole, quel est le niveau de pratique? Puisque la parole est claire, Dieu considère que vous l'aimez. On a déjà lu ce passage plusieurs fois. Uniquement quand vous mettez en pratique la parole. Uniquement quand vous mettez en pratique. Parce que le véritable enjeu est de faire un avec la parole. C'est là parce que tu es catholique, votre question ne sait pas encore quoi. Attends à quoi? Notre problème est en relation avec Jésus-Christ. Quel est le niveau d'affinité, de complicité, de fusion que tu as raté? Puisqu'au fur et à mesure que tu rejettes ce qu'il y a de mauvais en toi, Dieu te remplit de lui. Il te remplit de lui. Et plus tu te remplis de lui, plus tu commences à ressembler à Christ. Jusqu'à ce que quand tu regardes faire, agir ou réagir, on voit Christ. C'est un processus qui concerne tout chrétien. Ce n'est pas une affaire partielle. Nous avons dit ici, lors d'un enseignement bien plus ancien, le partenariat qui est entre Dieu et l'homme. On a dit que c'est une relation de partenariat régie par un contrat de libre adhésion à caractère synalarmatique. À l'époque, les gens n'étaient pas passés pour synalarmatique, on l'avait expliqué. Mais ceux qui ont lu le livre Vie affective et performance de ce professionnel, c'est bien clair là-dedans. Ça veut dire que quoi? Et vous devez comprendre ça selon la compréhension de Dieu. La relation à Dieu est une plateforme de cohabitation. Tu avances vers Dieu et lui il avance vers toi. Plus tu donnes de toi, plus tu donnes de lui. Quand tu recules, tu veux que lui fasse quoi? Il avance. Même avec Dieu, tu ne peux pas réclamer ce que tu refuses de donner. Il y en a qui cessent de prier. Quand tu cesses de prier, tu veux quelle communication? Nous avons démontré, de la dimension universitaire jusqu'à la dimension spirituelle, que la prière est un acte de communication. Quand on dit, faites ceci, obéissez à la parole, prenez connaissance de la parole, remplissez-vous de la parole, Si vous n'allez pas vers la parole, vous ne faites pas l'effort de connaître la parole qui était au commencement, par laquelle tout a été fait, sans laquelle rien n'a été fait, qui fait cette chair, qui est la lumière du monde, qui a habité parmi nous. Si vous ne voulez pas aller vers la parole, comment la parole viendra à vous? Si vous ne voulez pas pratiquer cette parole, comment est-ce que Dieu lui se remplira en vous? Dans une cohabitation, dans un partenariat, quelle est votre contribution? Zéro? Il y a quelque chose qui me crée dans ce pays. L'intimité développée par l'ennemi a fait que beaucoup de gens sont dans des postures mentales et comportementales qui sont purement suicidaires. Et je prends une parenthèse sans vouloir être dur. Beaucoup de femmes, par exemple, ont une légitimité de la réclamation. Ils doivent me donner. Ah bon? On doit te donner. Moi, tu donnes toi. Quelle est ta participation à ton propre bonheur? Une telle intimité que les gens sont à un stade où ils ont confié leur bonheur à autrui. Toi, ta contribution pour ton propre bonheur, c'est toi. Quelle est ta contribution pour que Dieu t'apporte le bonheur? Parce que même le bon mari, tu ne peux pas avoir si tu n'as pas d'abord donné ta contribution vers Dieu. Le bon mariage, même tu ne peux pas l'avoir tant que tu n'as pas donné ta contribution à Dieu. Même si tu es dedans, tu peux être un gentil enfer du truc, ni dans que tu ne peux pas imaginer. Quelle est ta contribution? Il y a des gens ici tellement insensés, ils ne prient pas. Tu peux verser une tonne de ce Dieu, tu ne donnes rien. Quand tu lui demandes s'il prie, il dit que si je prie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es aussi insensible à l'Esprit Saint? Relis ces passages, mais il faut qu'on tombe d'accord. Nous sommes en train de fonder un ministère dans lequel vous êtes partie présente, dans lequel vous avez une responsabilité, dans lequel vous devez assumer votre part. Vous ne pouvez pas se faire à ce niveau. Et on ne peut pas compter sur vous sans vous. On ne peut pas miser, investir sur vous sans votre propre participation. Il faut une détermination. Il faut un véritable engagement. Et nous sommes dans la phase d'engagement. Tant que nous finissons cet enseignement, nous allons passer dans quelques passages qui vont certainement illuminer les esprits ici. Et il est temps, comme la semaine dernière, on a fait un bilan ensemble, certains ont réalisé qu'ils ne sont pas des spectateurs dans ce ministère, mais qu'ils sont des acteurs. Certains ont réalisé que les dons spirituels, ils ont le droit de les réclamer, de les demander. C'est en réalisé qu'ils ne sont pas là pour regarder les autres faire et qu'ils peuvent faire. C'est en réalisé que les tous saints peuvent les utiliser de plein de façons. Oui, ça a même commencé, j'ai eu plein de rapports cette semaine sur les hommes qui sont en train de s'allumer. Dieu soit loué.
Amen.
Mais on est loin du compte. Nous sommes vraiment loin du compte. Parce que beaucoup sont dans ce que le Seigneur appelle du même apostolat du diable. Détournez-vous de l'apostolat du diable. Et entrons tous ensemble dans l'apostolat de Jésus-Christ.
Amen.
Tu ne dis pas Amen.
Amen.
L'important, que nous lisions ensemble, avant nous lire 1 Corinthiens 12, amis, 2 Corinthiens 11, de 2 à 3, très bien, avant nous lire 1 Corinthiens 5, bien, voici les passages, 1 Corinthiens 5, de 1 à 5, parce que ça nous permet d'accomplir ce que nous avons dit, ce qui est la parole, 1 Corinthiens 5, de 1 à 5, 2 Corinthiens 6, de 14 à 18. Je tiens à ce qu'on dise ces passages pour que les gens aient des références dans la parole qui leur permettent de comprendre la fermeté de l'engagement en Christ et les dangers du non-engagement. 1 Corinthiens 5, de 1 à 5, 2 Corinthiens 6, 14 à 18, Jacques 2, 14 à 21. Nous avons juste lu ces passages qui ne sont pas à commenter parce qu'on a déjà fait le commentaire. Les uns et les autres vont s'approprier de la fête. Depuis plus de 3 mois, nous vous formons à avoir de véritables fondations. Et nous sommes en train de vous donner de plus en plus cette effecteur. Vous devez avoir vos propres repères dans la parole. 1 Corinthiens 5, le verset 1 à 5. 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 18. Jacques 2, 14, le verset 26. Mets ton micro à marcher.
1 Corinthiens 5, verset 1 à 5, il est écrit. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son frère. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plus pauvre dans la prison, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la terre, afin que l'esprit soit posé au jour du Seigneur Jésus. Amen.
Amen. J'ai quelque chose à vous raconter. Beaucoup d'entre vous êtes assis là et vous voyez. Même quand on ne sait pas que vous voyez, vous. Et quand des choses changent aussi, vous voyez. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'air autour de moi. Je dis, un peu plus d'oxygène et des traces. Que nul ne vous trompe sur la signification des choses. C'est l'œuvre du Seigneur. Dieu, dans sa grande sagesse, fait les changements qu'il estime nécessaires pour apporter de la lumière dans son œuvre, pour apporter la propreté dans son œuvre. Vous êtes enseigné afin de connaître la direction et la volonté du Père éternel. Vous êtes enseigné afin de garder en permanence à l'esprit que Jésus-Christ est le chemin, est la vérité et est la. Vous êtes enseigné par un envoyé du Dieu créateur. Et il est injuste de dire l'envoyé de Jésus-Christ. Celui qui a été envoyé pour une mission spéciale.
Amen.
Lorsque Dieu lui-même, présent en esprit, réalise que, au lieu que les gens écoutent l'envoyé et suivent la direction donnée par l'envoyé, ils écoutent l'ennemi. Et veulent amener l'envoyé dans la direction prévue par l'ennemi. Dieu lui-même organise le nettoyage. C'est ce qui s'est passé ici. Applaudissez pour le Seigneur. Lui-même organise le nettoyage. De montrer l'autre face. Quand on demande le Seigneur à faire quelque chose de magistral, je vous le confesse souvent, mais certains ne comprennent pas jusqu'à quel point cela me vient du cœur. Dans mon bureau, il y a un tableau qui porte 60 noms de Dieu. Ces 60 noms de Dieu représentent 60 expériences des hommes dans la relation à Dieu.
Amen.
Moi, le Dieu que je connais, c'est un Dieu de démonstration et d'action.
Amen.
Il a fait une démonstration de puissance dans ce ministère.
Amen.
À la vie de Et comme il est l'alpha et l'oméga, comme il est le début et la fin, il est le premier et le dernier, il est le maître du temps et des filles comme ça. Il est le premier et le dernier. Ta sœur dans la chair. Elle est ta sœur au ciel. Et c'est là que le diable vient jouer au ballon, ballon que je passe. C'est lui qui a joué le ballon.
Amen.
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 J'ai vu des choses merveilleuses se passer. Ce qui s'est passé dans ce ministère, je vais finir là avant de continuer la parole, est dit de ce qu'on voit dans un film d'espionnage. Les gens montent les coups, semaine après semaine, ça dure des mois, et ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils essaient de bloquer la sorcellerie en plein jour. Vous avez reçu l'envoyé, qui a reçu la vision de Dieu, en Christ. L'envoyé suit Christ, donc tout le monde suit l'envoyé. Où est-ce que
ça?
C'est nous qui connaissons la direction. Erron, là on s'est écrit Erron. Je suis très heureux d'appartenir à Jésus-Christ. Dieu, on s'en est très heureux d'appartenir à Jésus-Christ.
Je serai le Dieu et ils seront mon peuple.
Amen.
Que cette parole soit en partage avec vous.
Amen.
Prenons Jacques 2, 14, 26. Jacques 2, de 14 à 26. Il y a quelque chose de très engageant là-dedans. Et dans la même lignée, 1 Pierre 2, le verset 11. Jacques 2, verset 14 à verset 26.
Jacques 2, verset 14 à 26. Mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les yeux? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et mangent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les yeux, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les yeux. Montre-moi ta foi sans les yeux, et moi je te montrerai la foi sans les yeux.
Amen.
Amen.
Tu crois qu'il y a un seul Dieu qui fait bien. Le démon le croit aussi. Mais il trempe. Veux-tu savoir, ô âme vain, que la foi sans les yeux est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les yeux lorsqu'il offrit son fils Isaac sur lequel tu vois que la foi agissait avec les yeux, et que par les yeux, la foi fut rendue par les yeux. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham cria Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les yeux, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les yeux? Lorsqu'elle poursuit les messagers et qu'elle est plus partie d'un autre chemin. Comme un corps sans âme est mort, de même la foi sans les yeux est morte.
Amen. Apprenez donc à poser les œuvres de la foi en Jésus-Christ. Apprenez à poser les œuvres de la foi en Jésus-Christ. Parce que là où Dieu nous attend, c'est dans les œuvres, c'est dans les actes. Au quotidien, ce n'est pas une fois là, ou par inspiration, une fois par trimestre ou par semestre. Au quotidien. 1 Pierre 2, 11, et 1 Pierre 4, de 1 à 5. Ces passages sont extrêmement importants. Moi, je tiens à ce qu'on les lise. Ils parlent à tout notre être, et qui est en écran. 1 Pierre 2, verset 11, 1 Pierre 4, de 1 à 5. 1 Jean 2, verset 1. Et enfin de 15 à 17. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 4, de 1 à 5. 1 Jean 2, verset 1. Et ensuite de 15 à 17.
Bien-aimés, je vous exhorte. Comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous d'appeler des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? Quelqu'un n'a pas compris? 1 Pierre 4, verset 1 à 5, quelqu'un d'autre?
Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. En marchant dans la dissolution, la convoitise, l'ivrognerie, le respect du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouvait-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen.
Amen. Vous gardez dans les références 1 Jean 2, verset 1, de 15 à 17. Nous continuons. Je suis en train de dire pour finir, parce que c'est là où nous sommes en fait. Établir les églises implique deux cases principales. Un débit ardent, justement, suscité par Dieu de maintenir la pureté de l'église, et sa séparation des péchés du monde. Le deuxième élément, c'est un souci constant de proclamer l'évangile du Nouveau Testament et de le préserver de l'hérésie des nouvelles tendances théologiques et des faux apôtres. Ces deux soucis sont des soucis importants. Si vous évitez les péchés, il n'en demeure pas moins que vous pouvez rencontrer de très mauvais enseignements. L'un des enseignements que j'ai observé modestement sous mon petit angle, qui fait rage actuellement, c'est sauvé. L'enseignement du sauvé. Donc il y a des gens qui disent, pourquoi se battre? Jésus qui a déjà combattu pour nous, non? Il y a des faux prophètes et de faux apôtres qui propagent de tels enseignements. Ils prennent un passage, le sortent de son contexte, lui enlève son essence et propose son peuple. Vantil. Non, vous pouvez tout faire. Fornicer. Soyez adultère. Maintenant, une vie de débauche. Jésus qui vous a déjà sauvé. Il y a un plus de combat à mener. Un mauvais enseignement qui contribue à ce que les chrétiens soient paresseux, qui restent sous l'oppression, qui restent esclaves du diable, qui restent sous la domination de l'ennemi, qui restent dans la misère, dans la pauvreté la plus innommable, parce qu'ils ont reçu un mauvais enseignement de faux apôtres, de faux prophètes, de faux évangélistes. Par l'autorité de Jésus-Christ, je déclare que de tels enseignements ne seront jamais ton partage. Vous devez connaître ces choses. Pour qu'on aille directement dans la parole. Romains 1, Romains 16, 17. Prenons ça rapidement, on ne va pas tout lire. Romains 16, 17. 1 Corinthiens 1, 11, 2. On va prendre trois passages. Romains 16, 17. 1 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, de 3 à 4. Romains 16, 17, 1 Corinthiens 11, 2, 2 Corinthiens 11, de 3 à 4, vous pouvez m'ajouter pour 2 Corinthiens, de 13. On a lu ces trois passages avant de faire la conclusion.
Romains 16, 17, je vous vois, frère, à prendre garde à ceux qui causent les divisions et les scandales, au préjudice de l'enseignement,
Rendez, relis ta mentie.
Je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent les divisions et les scandales.
Rendez garde à ceux qui causent les divisions et les scandales. C'est pourquoi le nettoyage a été fait ici.
Amen.
Qui ne dit pas amen?
Amen.
Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Amen.
Je vous fais une confidence.
Oui.
Ça fait au moins 8 mois que le Seigneur m'a dit qu'il m'apprendra toujours à faire la guerre propre.
Amen.
Il m'a dit, tu vas toujours faire la guerre propre. C'est là où tu bats l'ennemi sans te salir. Parce que tu es derrière, tu es devant. Il nettoie tout. L'ennemi constate seulement, quand on comprend ce qui est arrivé, mais trop tard. Que Dieu lui-même vient de lui apporter une correction. De lui infliger une correction pour parler bien français. L'autre passage, 1 Corinthiens 11, verset 2. Qu'est-ce qu'il écrit dedans?
parlant de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard.
Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, oui.
Et de ce que vous retenez, c'est que je vous le
Et de ce que vous retenez les instructions telles que je vous les ai remises.
Amen.
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 Que dit 2 Corinthiens 11, verset 1, 3 à 4 et le verset 13.
2 Corinthiens 11, verset 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vous pensiez de se corrompre et de se tourner de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez, fort bien. Amen.
Et que dit le 13?
Verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers vendeurs, déguisés en apôtres de Christ.
Amen. Dans la même lignée, vous allez noter toujours pour notre école, Galates 1, 9, on continue. Je viens d'eux, de 1 à 3, 1 Jean 4, de 1 à 6. Galates 1, 9. 2 Pierre 2 de 1 à 3, 1 Jean 4 de 1 à 6 et 2 Jean 1 de 7 à 11. Il est important de comprendre que l'Église doit obéir et rester fidèle aux écrits originaux. Je relis parce que certains sont en train de noter. On a dit Galates 1, 9, 2 Pierre 2 de 1 à 3, 1 Jean 4 de 1 à 6, 2 Jean 1 de 1 de 7 à 11. Disons tantôt que l'Église doit obéir et rester fidèle aux écrits originaux. Rejeter la révélation inspirée des apôtres, c'est cesser d'être une Église selon le modèle biblique. Et rejeter le Seigneur lui-même, en fait. Un enseignement qui vient de Christ ne doit pas être corrompu, ne doit pas être déformé ou détourné. Il ne doit donc pas être rejeté. Si vous le rejetez, c'est que vous allez rejeter Christ lui-même. Cet enseignement est divin. Nous avons Jean 16, de 13 à 15, qui permet de comprendre l'esprit de cette démonstration. 1 Corinthiens 14, de 36 à 38. Michael, prends la lecture de Jean 16, 13 à 15, et ensuite 1 Corinthiens 14, 36 à 38.
Jean 16, verset 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen.
Amen. Cette parole s'accomplit aujourd'hui, ainsi pour nous, comme elle est accomplie partout où Jésus-Christ et l'Esprit Saint travaille. Amen.
Amen.
Verset 1 Corinthiens 14, de 36 à 38.
1 Corinthiens 14, verset 36 à 38. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce qu'il vous a écrit est un commandement du Seigneur. Amen.
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 Vous êtes abondamment bénis.
Amen.
Parce que cet enseignement est exceptionnel. Et parce que le Seigneur veille à ce que vous receviez le meilleur.
Amen.
Tant dans les démonstrations que dans la parole elle-même. Nous vous invitons, alors que nous sommes en train de finir cet enseignement, à comprendre que croire au message apostolique et y obéir, le préserver, pas aucune distorsion, c'est rester fidèle à l'Esprit de Dieu. C'est se construire en Christ. Si vous lisez 2 Timothée 1, le verset 14, vous allez comprendre. Que non seulement c'est se construire en Christ, mais c'est garantir la perpétuation de la vie, de la bénédiction et de Dieu, Jésus-Christ, de sa présence au sein de l'Église et au sein de vos vies. C'est un filon incontournable que chacun d'entre nous doit suivre. Celui de connaître cet enseignement et de le mettre en pratique de façon rigoureuse, de manière attentive, de façon sincère et entière, de façon totale. Je voudrais que tout le monde se lève pour recevoir le dernier message que le Seigneur demande de vous transmettre. Tout le monde debout. Le Seigneur demande, à la fin de cet enseignement, que chacun d'entre vous sème la graine de la prospérité en lui, afin que cette graine de prospérité puisse grandir, mûrir, s'épanouir dans chacune de vos vies. Que chacun d'entre vous voit cette prospérité. Que chacun d'entre vous vive de cette prospérité. Que chacun d'entre vous reçoive de cette prospérité.
Amen.
Que chacun d'entre vous jouisse de cette prospérité.
Amen.